Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr.
Troisième récit de notre série consacrée à la littérature et les révoltes populaires, Jacou le croquant de Eugène Leroy, paru en 1899 aux éditions Calmann-Lévy et sous forme de feuilleton dans la Revue de Paris. Ce roman, réaliste, régionaliste, dénonce les conditions de travail et de vie des paysans dans le Périgord au XIXe siècle. Le livre est devenu un classique de la littérature sociale et de révolte du monde des travailleurs, rare, dans un milieu littéraire français essentiellement bourgeois. Le roman est réaliste. Peut-on le définir également comme autobiographique ?
Il est certain que Eugène Leroy utilise ses souvenirs, notamment ceux de l'enfance, pour décrire la réalité des conditions de vie des paysans, soumis au bon vouloir des propriétaires et autres obéraux, pour exercer un travail que l'on qualifierait aujourd'hui de précaire, et dont ils dépendent en totalité pour se nourrir et nourrir leur famille. Ajoutons que le récit se déroule en Dordogne, qu'il est né à Hautefort et qu'il mourra à Montignac. Enfin, le narrateur écrit à la première personne, ce qui conforte l'aspect autobiographique.
Ainsi donc, Eugène Leroy a connu la misère des paysans qu'il décrit dans son roman ?
Pas entièrement. Ses parents ont un emploi plus pérenne que la majorité des paysans. Ils sont domestiques du baron de Damas, propriétaire du château de Hautefort dans le Périgord. Mais cette fonction servile les oblige à placer leur fils en nourrice chez une paysanne des environs. On trouve d'ailleurs cette notion d'abandon à la fois dans Jacou orphelin de son père, mort aux galères, et de sa mère, épuisée par les trajets, le manque de travail, la famine et le chagrin, et dans d'autres de ses romans.
Mais comment devient-il alors écrivain lorsque l'on sait, et le roman témoigne aussi, que la majorité des enfants sont analphabètes à cette époque et dans ce milieu ?
Il peut étudier à l'école rurale, où il réussit. Puis il séjourne à Périgueux où il fréquente l'école des frères. Il refuse cependant le séminaire, mais gardera de cette expérience un sentiment ambigu de la religion. Il valorise les prêtres du terrain, proches des gens, partageant leurs difficultés, tout en se montrant férocement anticlérical, essentiellement envers le haut clergé, celui des villes, des évêques, des puissants.
Oui, on trouve d'ailleurs dans Jacou cette figure du prêtre proche des gens, avec le curé Bonal qui le recueille alors qu'il est orphelin et qui est contraint de se défroquer après son renvoi de la paroisse par sa hiérarchie pour avoir soutenu les paysans. Et qu'en est-il de son engagement politique qui transparaît également dans le roman ?
Le roi est un écrivain engagé qui a mené une vie de combat. Il est farouchement républicain, libre penseur. Il a des rapports difficiles avec l'autorité en général. Alors qu'il s'est engagé dans l'armée, il combattra en Algérie, il est cassé de son grade pour indiscipline. Plus tard, il sera révoqué de la fonction publique par le gouvernement MacMahon en raison de son républicanisme. Dans le roman, c'est à travers la figure du comte de Nansac, seigneur méprisant et tout-puissant, qu'il dénonce le pouvoir de type monarchique et met en valeur la révolte des paysans qui aboutit à la disparition matérielle du château, l'exil de la quasi-totalité de la famille Nansac et donc symboliquement à la fin des privilèges royaux.
Cet engagement est matérialisé par son héros qui donne son nom au roman. Quel en est précisément le sens ?
Le nom Jacou est inspiré du terme Jacquerie, qui désigne la révolte paysanne de l'Ancien Régime, et le surnom de Le Croquant fait référence au nom donné aux révoltés au XVIe et XVIIe siècle dans le Sud-Ouest.
Résumé. À Combenaigre, en 1815, pauvre métairie dépendant du château de Lerme, propriété du comte de Nansac, Jacou, orphelin de 9 ans et recueilli et éduqué par le curé Bonal. Il reste révolté par l'injustice de la mort de ses parents et de la condition de vie des paysans. Devenu adulte, il est enfermé par le comte de Nansac dans ce qui était jadis les oubliettes du château suite à des actes de braconnage. Finalement libéré grâce à l'intervention du chevalier de Galibert, ami de Bonal, il apprend le suicide de Lina, son amie qui le croit mort. Il rassemble alors les croquants, c'est-à-dire tous ceux qui ont à se plaindre du comte. Ils incendient le château. Jacou est emprisonné. Il est libéré après son procès qui illustre son juste combat et correspond à l'abdication du roi Charles X. Jacou retourne alors à sa famille et à ses activités de paysan.
Extrait 1. Jacou de Dordogne. Le plus loin dont ils me souviennent, c'est 1815, l'année que les étrangers vinrent à Paris et où Napoléon, appelé par les messieurs du château de Lerme, l'ogre de Corse, fut envoyé à Sainte-Hélène, par-delà les mers. En ce temps-là, les miens étaient métayers à Combenègre, mauvais domaine du marquis de Nansac, sur la lisière de la forêt Barade dans le Haut-Périgord. C'était le soir de Noël. Assis sur un petit banc dans le coin de l'âtre, j'attendais l'heure de partir pour aller à la messe de minuit dans la chapelle du château. Et il me tardait fort qu'il fût temps. Ma mère, qui filait sa quenouille de chanvre devant le feu, me faisait prendre patience à grand-peine en me disant des contes. Elle se leva enfin, alla sur le pas de la porte, regarda les étoiles au ciel et revint aussitôt. « Il est l'heure, dit-elle, va mon drôle, laisse-moi arranger le feu. » Pour quand nous reviendrons.
Extrait 2. La masure. Dans un coin, touchant la cheminée, était le grand lit de grossière menuiserie où nous couchions tous trois. Et au pied du lit, à des chevilles plantées dans le mur, pendaient quelques méchantes hardes. Du côté opposé, il y avait un mauvais cabinet, tout troué par les verres, auquel il manquait un tiroir, et dont un pied pourri était remplacé par une pierre plate. Dans le fond, la mée, où l'on serrait le chanteau, sous la mée, une tourtière à faire les millas, et à côté, un sac de métaille à moitié plein, posé sur un bout de planche pour le garder de l'humidité de la terre. À l'entrée, près de la porte, était dressée l'échelle de meunier qui montait à la trappe du grenier, et, sous l'échelle, un pilot de bois pour la journée. Dans un autre coin était l'évier, dont le trou ne donnait guère de chaleur par ce temps de gel, et au milieu, une mauvaise table avec ses deux bancs. Aux poutres pendaient des épis de blé d'Espagne, quelques pelotons de fil, et c'était tout. La maison avait été pavée autrefois de petits cailloux, mais il y en avait la moitié tout dépavé, ce qui faisait des trous où l'on marchait sur la terre battue. En ce temps dont je parle, je ne me faisais guère attention à ça, étant né ayant été élevé dans des baraques semblables. Mais depuis, j'ai pensé qu'il était un peu odieux que des chrétiens, comme on dit, fussent logés, ainsi que des bêtes. Ou, c'était le pire encore, c'est lorsque la famille est nombreuse et que tous, pères, mères, garçons et filles, petits et grands, logent dans la même chambre, entassés dans deux ou trois lits à trois ou quatre, en maladie comme en santé. Tout ça n'est pas bien sain, ni convenable. Il n'est pas honnête non plus que le père et la mère se dépouillent devant leurs enfants, les sœurs devant les frères. Et puis, quand ces enfants prennent de l'âge, il n'est pas bonnement possible qu'ils ne s'aperçoivent pas de choses qu'ils ne devraient point voir, et ne supprennent des secrets qu'ils devraient ignorer.
Extrait 3. Mon père meurtrier. Monsieur Labouré vous fait dire, par l'ordre de monsieur le comte, d'avoir à vous défaire de votre chienne. Au premier jour, si on la trouve encore ici, il la fera tuer. Que le bon Dieu préserve monsieur le comte et celui qui vous envoie de commander ça, dit mon père en serrant les poings et en regardant Mascré les yeux pleins de colère. Et vous n'en faites rien, sans quoi il arrivera un malheur. Pourtant, si on me le commande, il faudra bien que j'obéisse, dit le garde. À votre place, moi, je vendrai la chienne. Monsieur le comte assure que, d'après les anciennes lois, un paysan ne peut avoir de chien de chasse qui n'ait le jarret coupé. « C'est bon, fit mon père. Rapportez-leur seulement ce que je vous ai dit. » Ma mère ne dormit pas du reste de la nuit, tracassée par cette affaire-là, et comme sentant approcher un malheur. Le matin, sur les 9 heures, nous finissions de manger la soupe quand tout à coup, la chienne sortit en aboyant, et une seconde après, nous entendîmes un coup de fusil et quelques plombs vinrent ricocher contre la porte ouverte jusque dans la maison, l'un desquels blessa ma mère au front, ce qui lui fit jeter un cri. Mon père alors saute sur son fusil, écarte ma mère qui veut l'arrêter et court dehors. Devant lui, il voit la chienne étendue, morte, le sang lui sortant de la gueule, et à l'entrée de la cour, la Borie, qui rendait aux gardes son fusil déchargé. « Ah, canaille, tu ne feras plus de misère à personne !» Et avant que l'autre ait songé à se sauver, il épaule son fusil et l'étend raide de mort. Tandis que masqué, pâle et lui-même plus mort que vif, ne savait où il en était, ma mère survenait avec de grands cris. « Ah, Martissou, qu'as-tu fait ?»« C'est lui qui l'a cherché, » répliqua mon père. « Ça devait de toute force arriver. » Du temps qu'aidait du garde ma mère à côté la Borie contre un tas de bruyères pour lui porter secours, mais bien inutilement, mon père rentre dans la maison, prend ses souliers, son gros bonnet de laine, passe le havresac en sautoir, met dedans un morceau de pain, sa corne à poudre, son sac à grenaille, m'embrasse, sort son fusil à la main et tire vers la forêt.
Extrait 4, retour des nobles. Et lorsque nous fûmes assis, comme on est curieux dans les petits endroits, principalement les femmes, la vieille se mit à questionner ma mère, tournant autour du pot pour savoir où nous allions et à quelle occasion. Tant elle avait l'air d'une brave femme que ma mère lui raconta tout par le menu, les misères qu'on nous avait faites, les canailleries de la Borie et comment mon père avait tiré sur ce régisseur des messieurs de Nansac, eux et lui l'ayant poussé à bout jusqu'à lui venir tuer sa chienne dans la cour. « Ah, les canailles !» s'écria la vieille. « Il y en a bien par ici qui en ferait autant, » ajouta-t-elle en pesant sa quenouille. Avant les révolutions, il n'y avait pas de gueuserie qui ne nous ait faite, et depuis qu'ils sont revenus, ils recommencent, surtout depuis quelque temps. Elle se leva brusquement, là-dessus, alla fermer la porte et alluma la lampe. « Voyez-vous, pauvre femme, dit-elle, ces nobles sont toujours les mêmes, faisant les maîtres, orgueilleux comme des coqs d'Inde et durs pour les pauvres gens. Mais quand l'autre reviendra, il se souviendra qu'ils l'ont trahi et il les jettera à la porte. « L'autre ? » fit ma mère. « Eh oui, Poléon, qu'ils vont envoyer à 500 000 lieues par-delà les mers dans une île déserte. » Ma mère avait bien ouï parler quelquefois le dimanche devant l'église d'un certain Napoléon qui était empereur et qui avait tant bataillé que beaucoup de conscrits du Périgord étaient restés là-bas dans des pays inconnus. Mais du côté de la forêt Barade, on n'était pas bien au courant et elle répondit simplement. « Alors, il est fort à désirer qu'il revienne tôt puisque c'est un ami des pauvres gens car nous sommes trop malheureux. »
Extrait 5, l'adieu aux galériens. Aussitôt arrivèrent des enfants, des curieux, des gens de loisirs, qui s'attroupèrent autour de la voiture, disant entre eux « Voilà la galérienne qui va emmener ceux qui ont été condamnés dernièrement. » Nous nous étions levés, transis, ma mère et moi, oyant ça, lorsque la porte se rouvrit et l'homme au briquet en sortit, précédant un gendarme après lequel venaient trois hommes enchaînés, dont le dernier était mon père. Un autre gendarme les suivait. L'homme gris ouvrit derrière la voiture une petite porte pleine solidement ferrée et fit monter les condamnés. En voyant ainsi partir mon père, sans nous être fait les adieux, nous autres jetions les hauts cris en pleurant. Mais lui, quoique poussé par les gendarmes, se retourna et cria à ma mère « Du courage, femme, pense au drôle !» Là-dessus, un gendarme monta derrière lui, la porte fut refermée à clé. L'autre gendarme se mit devant avec l'homme en gris et le postillon enleva ses trois chevaux qui partirent au grand trot. Pendant un moment, nous restâmes là, tout étourdis, comme innocents, nous lamentant, sans faire attention aux badauds qui s'étaient assemblés autour de nous. Pourtant jouit un homme en tablier de cuir qui disait « Moi, je l'ai vu juger, celui-là, et sur ma foi, il vaut 100 fois mieux que celui qui l'a tué. » Quant à ceux-là qui l'ont poussé à bout, ils sont plus coupables que lui. Ah, il y a quelques vingtaines d'années, on les aurait mis à la raison. Étant allé chez l'avocat, il fut bien étonné d'apprendre que mon père était parti, car on lui avait assuré que la galérienne ne devait passer que le lendemain, Mais soit qu'on l'eût trompé à l'exprès, ou bien qu'elle eût avancé d'un jour, c'était fini. Il fallait se faire une raison, comme il nous dit. Après qu'il nous eut réconfortés de bonnes paroles, et un peu consolés en nous promettant de nous donner des nouvelles de mon père, ma mère le remercia bien fort de tout ce qu'il avait fait pour sauver son pauvre homme, et aussi de toutes ses bontés pour nous. Et comme elle ajoutait que n'ayant rien, elle était totalement incapable de le récompenser de ses peines, il lui répondit « Je ne prends rien aux pauvres gens. Ainsi, ne vous tracassez pas pour cela. » Là-dessus, ma mère lui demanda son nom, l'assurant que l'un et l'autre, nous lui serions reconnaissants jusqu'à la mort.
Extrait 6, mort au bagne. Il y en a qui diront, alors vous viviez comme des Zigounaous, des Huguenots. Vous n'alliez pas à la messe le dimanche, ni à vêpres. Eh non, nous n'y allions pas. Ma mère, la pauvre, croyait bien au paradis et à l'enfer. Elle savait bien qu'elle se damnait en faisant ainsi. D'ailleurs, elle ne pouvait l'ignorer, car le curé, l'ayant rencontré, un soir qu'elle revenait harassée de sa journée, le lui avait reproché, disant que de ne pas aller à la messe, de ne point se confesser ni faire ses Pâques, c'était vivre comme la chenaille. Non, elle n'allait pas à l'église et ne minait point, faute d'avoir le temps, disait-elle, mais il y avait autre chose. S'il faut dire la vérité, elle s'était brouillée avec le bon Dieu. Elle lui en voulait, et surtout la Sainte Vierge, de ce que mon père avait été condamné. Elle convenait bien qu'il devait être puni. Mais non pas de mort, parce que les vrais coupables, ceux qui l'avaient poussé à faire ce coup, c'était le comte, qui avait donné l'ordre injuste et méchant de tuer notre chienne, et puis cette canaille de Laborie qui la poursuivait de ses propositions malhonnêtes. Je dis puni de mort, car en ce temps-là, ce n'était pas comme à présent, où les forçats sont mieux soignés et plus heureux là-bas, dans les îles, que les pauvres gens de par chez nous. Ceux qui prenaient 10 ans de cette vie de galère avaient la carcasse solide. Mais la plupart mouraient avant, surtout ceux qu'on envoyait à Rochefort, dans les marais de la Charente. Et justement, c'était là qu'on avait mis mon père, sur la demande du comte de Nansac, comme M. Fongrave ne l'avait fit savoir. Dans le commencement, comme on nous avait dit que Rochefort était plus près de la Tuilerie que Brest ou Toulon, nous nous en contentions, comme si d'être séparés de 50 ou de 100 ou de 200 lieues, ce n'était pas la même chose pour nous. Mais depuis, j'ai su par un marinier de Saint-Léon que c'était là qu'on envoyait ceux dont on voulait se défaire. Et pour mon pauvre père, ce ne fut pas long. Tout le jour à travailler dans les bouts de la rivière, nourri de mauvaises fèves, enchaîné la nuit sur un lit de planches, il attrapa de terribles fièvres au bagne. Et puis, la perte de sa liberté et le chagrin le minaient plus que la maladie aussi. Au bout de quelques mois, le pauvre misérable mourut désespéré. L'avant-veille de la Toussaint, le maire fit appeler ma mère et lui dit brutalement devant le curé qui était avec lui sur la place de l'église « Ton homme est mort là-bas. Il y a eu hier 15 jours. Tu peux lui faire dire des messes. » « Les pauvres gens n'en ont pas besoin, » répartit ma mère. « Ils ont leur enfer en ce monde. » Et elle s'en alla.
Extrait 7, du fond du trou noir. Moi, je les suivais machinalement, m'arrêtant lorsqu'ils s'arrêtaient, repartant avec eux, perdu de chagrin, sans penser à rien, regardant d'un œil fixe le corps de ma mère plié dans le couvre-pied, qui s'en allait secoué par l'effet des accidents de terrain et autour duquel de grosses mouches noires venaient bourdonner. Au sortir de la forêt, les chemins étant découverts et meilleurs, les hommes purent porter tout le temps sur l'épaule et hâtèrent le pas. En passant près d'un village, une vieille pauvresse qui venait de chercher son pain comme en faisait foi son bissac à moitié plein sur son échine courbée, se signa, disant à mi-voix « C'est grand pitié de voir une pauvre créature portée en terre comme ça !» Et tirant son chapelet de sa poche, elle suivit avec moi. L'Ave Maria sonnait comme nous arrivions au bourg de Bars. Les hommes posèrent la civière devant le portail de l'église et l'un d'eux alla quérir le curé. Celui-ci vint, un moment après, jeta un coup d'œil froid sur le corps et dit « Cette femme ne fréquentait pas l'église, et n'a pas fait ses Pâques. Elle reniait Dieu et la Sainte Vierge. C'est une huguenote. Il n'y a pas de prière pour elle. Vous pouvez la porter dans le coin du cimetière où la fosse est creusée. » Les hommes restèrent un instant étonnés, puis reprenant leur fardeau, ils entrèrent dans le cimetière tandis que la vieille me disait « Si tu avais eu de quoi payer, il aurait bien fait l'enterrement tout de même. Jésus, mon Dieu !» Dans un coin du cimetière, plein de pierrailles, de ronces et d'orties, le trou était là, tout près, et l'homme qui l'avait fait attendait. Sur la planche inclinée, les porteurs placèrent le corps et autant qu'ils purent le firent glisser doucement. Puis ils ôtèrent peu à peu la planche et ma pauvre mère se coucha au fond du trou noir où elle était à peine étendue que le fossoyeur commença à jeter la terre et les pierres qui tombaient sur elle avec un bruit mat. Pendant ce temps, la nuit était venue et moi, noyée dans mon chagrin, j'étais debout, regardant comme imbécile la fosse qui se comblait. À côté, la vieille, à genoux, disait son chapelet. Après que l'homme eut achevé, elle se leva, fit un signe de croix et, me touchant le bras, me dit « Viens-t'en, mon petit, c'est fini. » Et je la suivis jusqu'au village où on la retirait dans une grange. Et lorsqu'elle m'eut fait monter, écrasée de douleur et de fatigue, je tombai sur le foin et je m'endormis d'un lourd sommeil.
Extrait 8. Je serai paysan. Quelque temps après, le curé me dit « Jacou, maintenant il te faut songer à prendre un état. Voyons, que préfères-tu ? Veux-tu être tisserand, sabotier, maréchal ? Veux-tu te mettre en apprentissage avec Virelou, le tailleur ? As-tu quelque idée pour un métier quelconque ? Monsieur le curé, je ferai ce que vous me conseillerez. Cela étant, mon ami, je te conseille de te faire cultivateur. » C'est le premier de tous les états, c'est le plus sain, le plus intelligent, le plus libre. C'est, vois-tu, le travail des champs qui a libéré de la servitude le peuple de France, et c'est par lui qu'un jour, la terre sera toute aux paysans. Mais n'allons pas si loin. Comme je me doutais de ta réponse, voilà comment j'ai arrangé les choses avec monsieur le chevalier. Tu travailleras le jour à la réserve avec Ariol. C'est un bon ouvrier terrien qui te montrera à labourer, sarcler, biner, faucher, moissonner, façonner les vignes et le reste. Tu vivras avec lui et la toinette chez monsieur le chevalier, mais tu coucheras ici, parce que le soir, je pourrai encore te donner quelques leçons et t'enseigner des choses qui te seront utiles plus tard. Nos bonnes gens de par là, qui ont vu leurs anciens ne sachant ni A ni B, et qui sont eux-mêmes aussi ignorants, disent qu'il n'est pas besoin d'en savoir tant pour cultiver la terre, mais ils se trompent. Un paysan un peu instruit en vaut deux. Sans compter que celui qui ne connaît pas l'histoire de son pays, ni sa géographie, n'est pas français. Pour ainsi parler, il est franc-lacois s'il est de Franc-Lac, et voilà tout. De même, celui qui ne sait ni lire ni écrire, c'est comme s'il avait un sens de moins. Lorsque tu seras grand, que tu sauras bien ton état de laboureur, tu trouveras aisément à te louer. Et plus tard, ayant mis de côté des gages, tu chercheras une honnête fille économe, et tu te marieras, et vous serez chez vous autres. Ce qui est une belle et bonne chose, et à bien considérer. Ainsi, voilà qui est entendu. Je remerciais le curé, comme on pense, et le lendemain, j'allais travailler avec Carillon.
Extrait 9. La révolte de Jacou. Je cheminais sans bruit, ma pioche sur l'épaule, pensant à Maluna. Lorsque tout d'un coup presque, je viens à entendre derrière moi le pas pressé d'un cheval. L'idée me vint aussitôt que c'était le comte de Nansac. Mais je continuais de marcher sans me retourner. Je ne m'étais pas trompé. Arrivé à quelques toises de moi, il me cria insolemment « Hola, Marot ! Te rangeras-tu ?» Le sang me monta à la tête comme par un coup de pompe. Mais je fis semblant de ne pas avoir ouï. Seulement, lorsque je sentis sur mon cou le souffle des naseaux du cheval, je me retournai tout d'un coup et attrapant la bride de la main gauche, de l'autre, je levai ma pioche. « Est-ce donc que tu veux écraser le fils après avoir fait crever le père aux galères ? Dis, mauvais crozin !» De ma vie, je n'ai vu un homme aussi étonné. D'habitude, les paysans se hâtaient de se garer de lui lorsqu'il passait, de crainte d'être jetés à terre ou pour le moins d'attraper quelques coups de fouet. Aussi était-il tout abasourdi. mais ce qui l'estomaquait le plus, c'était ce nom de Crozat. Si soigneusement caché, ce nom de son grand-père, le percepteur véreux, que le fils du croquant lui jetait à la face en lui rendant son tutoiement insolent. Il mit son fouet dans sa botte et tira son couteau de chasse. Le cheval, une bête nerveuse, grattait la terre et secouait la tête. « Lâche la bride de mon cheval, méchant goujat !» La colère me secouait. « Pas avant de t'avoir craché encore une fois la figure, misérable, le nom de ton grand-père, Crozat le voleur !» Et lâchant la bride du cheval qui se cabrait, je fis un saut en arrière et je me trouvai dans le taillis, tenant toujours ma pioche levée. Il resta là un moment, pâle de rage froide, les yeux venimeux, rinçant les lèvres et cherchant à foncer sur moi, mais le cheval, quoique rudement éperonné, à la vue de la pioche levée, reculait, effrayé. Alors voyant qu'il ne pouvait m'aborder de face et que le bois épais me défendait, le comte rengaina son couteau de chasse et s'en alla en me jetant ces mots. « Tu paieras cela, chère vermine ! Je me fous de toi, Crozat !» Encore ce mot qui l'affolait. Il piqua son cheval et disparut.
Extrait 10, une famille de croquants. Regardant l'avenir, je le trouvais rempli de cruelles incertitudes et de désolantes obscurités. Et puis, reportant ma pensée en arrière et songeant à la fatalité qui semblait poursuivre notre pauvre famille, je me remémorais mes malheurs, la mort de mon père aux galères et celle de ma mère dont à cette heure encore mon cœur saignait. Et, remontant plus haut, je pensais à mon grand-père jeté dans un cachot pour rébellion envers le seigneur de Reignac et incendie du château, délivré au moment où il attendait la mort par le coup de tonnerre de la Révolution. Et toujours, me remémorant le passé, je me souvins de cet ancêtre qui nous avait transmis le sobriquet de « croquant » pendu dans la forêt de Drouille par des gentilshommes du Périgord noir qui poursuivaient sans pitié les pauvres gens révoltés par l'excès de la misère. Alors, plein de rancœur, reliant par la pensée les malheurs des miens avec ceux des paysans des temps anciens, depuis les Bagaudes jusqu'aux Tarabvisés dont nous avait parlé Bonal, j'entrevis à travers les âges la triste condition du peuple de France, toujours méprisé, toujours foulé, tyrannisé et trop souvent massacré par ses impitoyables maîtres. Comparant mon sort avec celui de nos ancêtres, pauvres pieds terreux, misérables casse-mottes, soulevés par la faim et le désespoir, je le trouvais quasi semblable. Était-il possible, plus de 30 ans après la Révolution, de subir d'odieuses vexations comme celle de ce comte de Nansa qui renouvelait les méfaits des plus mauvais au bureau d'autrefois? Ma haine contre ce prétendu moble me flambait dans le cœur et je me disais que celui qui en débarrasserait le pays ferait une bonne action. L'esprit de révolte qui avait causé la mort de l'ancien féral le croquant, qui avait mené mon grand-père jusqu'au pied de la potence et fait mourir mon père aux galères, longtemps apaisé par l'exhortation du défunt curé de Bonal et les bontés de la sainte demoiselle Hermine, bouillonnait dans mes veines.
Extrait 11, une plaidoirie politique. « Maître Fongrave, vous avez la parole, » dit le président. Et alors notre avocat se dressa en pied, posa son bonnet devant lui et commença ainsi d'une voix grave et profonde son plaidoyer, reproduit en entier le lendemain par le journal « L'écho de la Vézone ». « Messieurs les jurés, il me semble entrevoir à travers les siècles quelques traces de la justice inconsciente des choses. Ce n'est pas certes cette justice haute et sereine à laquelle aspire l'humanité, mais une sorte de talion vengeur qui fait que l'oppresseur engendre la haine. Ce n'est pas certes cette justice haute et sereine à laquelle aspire l'humanité, mais une sorte de talion vengeur qui fait que l'oppression engendre la haine, que la tyrannie suscite la révolte, que la violence appelle la violence, et l'injustice la violation des lois de la justice. L'affaire qui vous est soumise n'est qu'un épisode de cette longue suite de soulèvements de paysans amenés par des vexations cruelles, une insolence sans bornes et par la plus brutale oppression. Tous les coupables ne sont pas là, sur ce banc, derrière moi, messieurs. Il y manque celui dont les agissements criminels ont amené les événements, dont les accusés ont à répondre. Il y manque ce prétendu gentilhomme, ce petit-fils orgueilleux d'un vilain qui ramassa des monceaux d'or impurs dans le ruisseau de la rue Quincampoix. Maître Fongrave, interrompit le président, ces appréciations rétrospectives sont inutiles. Vous n'avez pas à rechercher les origines de la fortune d'une honorable famille. Tenez-vous en fait de la cause, la propriété doit être respectée. Monsieur le président, je souscris pleinement à cette maxime. Je respecte donc la fortune acquise par un labeur honnête et persévérant. Et je respecte aussi la propriété qui est le fruit visible du travail. Mais lorsqu'une fortune est édifiée sur la ruine publique, lorsque la propriété provient d'une vaste escroquerie, j'ai le droit, comme homme et comme avocat, de les flétrir, de les mépriser. Je disais, messieurs les jurés, que le plus coupable était cet anobli qui apparaît en ce siècle comme un monstrueux anachronisme.
Et 12, Jacou, une légende périgourdine. Et lors, quelquefois, on vient me quérir, et assis sur une grosse pierre, dans la cour, pleine de décombres et envahie par les herbes sauvages, je leur conte mon histoire. Un de ces visiteurs, qui est venu deux ou trois fois à l'exprès, m'a dit qu'il la mettrait par écrit, telle que je la lui ai contée. Je ne sais s'il le fera, mais il ne m'en chaud. Comme je lui ai dit, je ne suis plus à l'âge où l'on aime à entendre parler de soi. Ainsi, ma vie s'achève de s'écouler doucement, en paix avec moi-même, aimé des miens, estimé de mes voisins, bien voulu de tout le monde. Et, dans une pleine quiétude d'esprit, demeuré le dernier de tous ceux de mon temps, rassasié de jour, comme la lanterne des trépassés du cimetière d'Athur, je reste seul dans la nuit et j'attends la mort.
Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, lutte et résistance populaire d'hier et aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr.